On n'est pas seul au monde.
Penser l'avenir de l'anthropologie.
Diversifier les manières d'être au monde.
Il y a une très grande diversité d'existants.
Comment on va restituer un monde complètement fragmenté?
Et comment est-ce qu'on vit avec eux? Et comment est-ce qu'on pourrait essayer de mieux composer avec eux?
Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris.
D'anthropologie sur Radio Campus Paris. Je suis Amélie et j'anime cette émission avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour Amélie.
Aujourd'hui, l'émission est réalisée par Julia. Vous écoutez le troisième et dernier épisode de la série Catastrophe.
Translucide, une émission d'anthropologie sur le 93.9 FM. Série Catastrophe.
Depuis la révolution industrielle, la Terre est entrée dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Le terme d'anthropocène, comme sa datation, sont sujets à débat, mais on peut s'accorder pour dire qu'il désigne une période de l'histoire à travers laquelle les activités humaines seraient devenues l'influence principale sur la biosphère. Cette ère géologique marque un tournant et, malgré les nombreux rapports et les alertes répétées du corps scientifique, la catastrophe écologique reste un objet difficile à penser et peine à engendrer des réactions concrètes. Dans ce contexte, auteurs de science-fiction et scientifiques dialoguent pour ouvrir les chemins des futurs possibles. Parmi eux, certains imaginent les moyens d'un projet civilisationnel d'expansion de l'humanité dans l'espace, tandis que d'autres proposent de réinterroger nos manières d'habiter la Terre. Aujourd'hui, nous recevons Julien Vaquez, sociologue, spécialiste des liens entre science et science-fiction. Julien Vaquez, bonjour.
Bonjour.
Dans vos travaux, vous avez choisi la sphère de Dyson comme un des objets révélateurs des dialogues entre la science et la science-fiction. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit et qu'est-ce qui vous a mené à vous y intéresser ?
La sphère de Dyson, alors c'est vraiment un exemple, pour moi je l'ai vraiment pris comme un exemple extraordinaire en fait. C'est vraiment quelque chose d'extrême et c'est parce que c'est aussi extrême que ça révèle des choses en fait beaucoup plus générales. En réalité, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard en lisant des articles de vulgarisation scientifique il y a quelques années. C'était l'époque où on découvrait tout un tas d'exoplanètes qui gravitaient autour d'autres étoiles. Voilà, il y en avait une qui semblait très curieuse. En tout cas, les observations de cette étoile étaient très curieuses. Et donc, certains scientifiques avaient émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir une sphère de Dyson autour de cette étoile. Et donc, je me suis dit, mais c'est très curieux, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà, j'ai commencé à lire de cette manière-là à propos de la sphère de Dyson. Pour le dire très rapidement, c'est une mégastructure spatiale qui englobe une étoile qui est fabriquée donc par une intelligence, par une civilisation. Et son but, c'est en fait d'emmagasiner toute la lumière qui est émise par l'étoile, toute son énergie, pour la transformer justement en énergie qui soit utilisable et exploitable par une civilisation, de manière industrielle.
Est-ce que vous pourriez revenir sur comment cet objet a été conceptualisé dans les échanges entre scientifiques et auteurs de science-fiction ?
Alors, ça s'appelle une sphère de Dyson parce que, disons que la personne qui a explicitement décrit ce design, cette architecture spatiale, c'est le mathématicien et physicien Freeman Dyson. Et donc, c'était dans un article qui était publié dans le magazine Science en 1960. Il explique, il s'intéresse à la possibilité qu'on a avec nos technologies actuelles, donc cette technologie à lui de l'époque, de découvrir des civilisations extraterrestres. Et si ces civilisations existent, eh bien, il est très probable qu'elles soient plus anciennes que la nôtre, étant donné l'âge de l'univers, l'âge des étoiles, etc. Et donc, si c'est une civilisation plus ancienne que la nôtre, elle est aussi plus avancée technologiquement. Elle aurait finalement abouti à la construction d'une telle mégastructure. Donc, il y a tout un tas d'hypothèses qui sont faites à travers cette idée, hein. Et la principale, c'est que si on veut devenir une civilisation spatiale, si on veut imaginer une civilisation spatiale, on est obligé de construire un tel design, on est obligé d'avoir une telle sphère qui va être capable de récolter, d'exploiter l'énergie de notre étoile.
Et sur quoi Freeman Dyson s'appuie pour expliquer que finalement, forcément, une civilisation extraterrestre va développer ce genre de structure ?
Je pense qu'il s'appuie simplement sur des ordres de grandeur physique. C'est un raisonnement de physicien. Alors moi, je ne suis pas physicien, donc je ne suis pas sûr d'être qualifié pour répondre à cette question-là. Mais de ce que je comprends, en tout cas, et pour le comprendre, j'ai interrogé pas mal de physiciens à l'époque. C'est juste une question d'ordre de grandeur. On a besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir devenir une civilisation spatiale et avoir toute une industrie, pouvoir voyager de planète en planète, voire d'une étoile à une autre. Et donc pour ça, il faut, il faut juste beaucoup d'énergie. Et donc il faut exploiter directement celle qui est la chose la plus puissante qui est autour de nous, c'est le Soleil. Donc il faut exploiter le Soleil, quoi.
Dans vos travaux, vous avez travaillé sur aussi la découverte d'exoplanètes. Quand vous parlez du travail des scientifiques, de ces astrophysiciens, vous parlez d'une faillite de l'imagination des scientifiques. À quoi est-ce que vous faites référence ?
Alors, en fait, ça, c'est une manière que j'ai, assez personnelle, de traduire une expression qui était utilisée par un écrivain de science-fiction britannique, Arthur C. Clarke. Vous savez, c'est l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, etc. En fait, c'était aussi donc un inventeur et un homme qui rêvait, justement, que l'humanité devienne une civilisation spatiale. C'était aussi un peu un futurologue. Il a écrit des essais de futurologie. Je crois que c'est un ouvrage qui s'appelle « Profil du futur ». Et dans cet ouvrage, il parle d'une « failure of imagination ». Et cette « failure of imagination », que moi je traduis par « faillite de l'imagination », c'est l'idée qu'en fait, c'est absolument impossible pour nous de dire ce qui sera impossible dans le futur. Parce que voilà, il prend tout un tas d'exemples pour montrer que tout un tas de gens qui ont dit « ça c'est impossible », en fait, quelques années après ou quelques siècles après, c'était devenu quelque chose de parfaitement normal et quotidien. Donc la faillite de l'imagination, c'est notre incapacité à prévoir ce qui peut se passer dans le futur.
Est-ce qu'on peut dire que la science est fiction ?
Alors, en fait, les scénarios, c'est un outil de travail très commun pour les scientifiques. Et je pense que la fiction, c'est aussi quelque chose de très courant dans la science. Après, ça dépend comment on définit la fiction. Mais je pense qu'un modèle, une simulation, c'est déjà une fiction, une expérimentation, c'est déjà une forme de fiction, en fait. C'est pas très problématique parce qu'on peut concevoir la fiction comme étant un outil cognitif qui va nous permettre de faire des choses. Et donc, pour moi, c'est pas vraiment un synonyme de la fiction, c'est forcément irréel. C'est un outil voilà, qu'on va utiliser pour produire des choses. Par contre, la dichotomie qui me semble intéressante, c'est plutôt celle entre science et littérature, qui est à mon avis un peu plus complexe et qui a une histoire, en fait, tout simplement assez longue. Et moi, tout mon travail, c'est un peu d'essayer de remettre en cause cette dichotomie entre science et littérature, de montrer qu'en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas une frontière entre la science et la littérature. Il y a en fait une pluralité de frontières à toutes les étapes du travail scientifique et du travail littéraire. Et donc, quand on regarde de plus près, on se rend compte de tous ces détails, de toute cette complexité, en fait. Mais disons que dire ça, ce n'est pas du tout comme enjeu de réduire la scientificité, entre guillemets, si on sait ce que ce mot veut dire, de la science, quoi. Je ne suis pas là pour remettre en cause la réalité des connaissances scientifiques, mais juste, je m'interroge sur le fait que dans notre société aujourd'hui, on a cette frontière symbolique entre science et littérature. Toutes nos institutions, d'ailleurs, sont organisées autour de ça. L'école, le lycée, l'université. On a des départements de sciences et des départements de littérature. Moi, je suis sociologue. Il existe une sociologie de la littérature et une sociologie des sciences. Mais tout ça, c'est aussi des conventions un peu arbitraires. En réalité, quand on regarde de plus près, il y a tout un tas de zones de contact entre les deux, de zones de flou. Je pense que le point de départ, ce qui précède, c'est ce flou, en réalité. Mais on a besoin de tracer des frontières, et donc on travaille collectivement à faire ces frontières. Parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fictionnel, pour pouvoir agir dans notre vie de tous les jours, on a besoin de faire ces distinctions-là. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné, on doit travailler quotidiennement pour faire cette distinction.
Vous avez d'ailleurs étudié ce flou des frontières entre littéraire et scientifique autour de cette sphère de Dyson, et vous parlez d'interférence entre science et science-fiction. Pourquoi parler d'interférence ? Pourquoi pas d'interaction, par exemple ?
Oui, alors là, pour être tout à fait honnête, je pense que les mots que vous employez me vont très bien, interférence, interaction. Oui, c'est effectivement une très bonne question, parce qu'en réalité, cette division dont je parlais, ce partage entre science et littérature, il est tellement ancré en nous que c'est très difficile pour nous même de trouver les mots qui permettent de caractériser ce qui se passe entre science et littérature, justement parce qu'on est obligé de présupposer qu'il y a deux choses différentes. Donc je ne pourrais pas vous dire quel mot est préférable. Dans un article, j'avais utilisé le mot d'interférence, qui me semble intéressant parce que il insiste sur les choses qui ne marchent pas, en fait, les choses qui bloquent, les absences, les bugs, un peu. Et ça peut aller dans les deux sens, quoi. Mais interaction, ça me va aussi très bien. Voilà.
Merci beaucoup, Julien Wacquet. On continue cette discussion juste après la pause musicale. Nous écoutons tout de suite Queen, un morceau né de la collaboration entre Janelle Monae et Erykah Badu. Les deux artistes afro-futuristes proposent un véritable récit science-fictionnel. Elles se mettent en scène comme les protagonistes d'un musée du futur, présentant des rebelles afro-américains cryogénisés. Le morceau souligne l'importance de la mémoire historique et notamment coloniale dans la construction de récits futuristes.
It's hard to stop rebels that time travel. But we at the Time Council pride ourselves on doing just that. Welcome to the Living Museum, where legendary rebels from throughout history have been frozen in suspended animation. Here in this particular exhibit, you'll find members of Wonderland and their notorious leader, Janelle Monae, along with her dangerous accomplice, Badula Oblongata. Together, they launched Project Queen, a musical weapons program in the 21st century. Researchers are still deciphering the nature of this program and hunting the various freedom movements that Wonderland disguised as songs, emotion pictures, and works of art.
They call us dirty.
d'écouter Queen, interprétée par Janelle Monae et Erika Badu.
Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris. Série Catastrophe. On l'a vu, on peut comprendre la sphère de Dyson comme un objet de dialogue entre littérature et science. Il y a un auteur de science-fiction qui a pensé la sphère de Dyson, qui appartient à la hard science-fiction, c'est Larry Niven. Donc la hard science-fiction peut être définie comme un sous-genre de la SF, considérée par certains comme la forme la plus rigoureuse de la science-fiction, puisqu'elle a l'ambition de reposer sur des fondements robustes scientifiquement, ou au moins vraisemblables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de la hard science-fiction ?
Oui et non. En fait, moi, la manière que j'ai de définir la hard science fiction, alors évidemment, la description que vous avez donnée est tout à fait correcte. Et je pense qu'elle donnera une bonne idée aux gens qui veulent en lire, par exemple, de à quel type de récit ils peuvent s'attendre. Effectivement, la hard science fiction, c'est une forme de science-fiction qui se présente comme étant très rigoureuse, presque mathématique. C'est un sous-genre de la science-fiction. Bon, qui est presque à l'origine de la science-fiction en réalité aux États-Unis, en tout cas tel qu'on l'entend aux États-Unis. Mais la catégorie de hard science-fiction est apparue beaucoup plus tardivement dans les années, alors si mes souvenirs sont bons, les années 50-60, dans des comptes rendus de lecture de lecteurs de science-fiction américains. Moi, je trouve que cette définition, elle est insuffisante à partir du moment où on cherche à avoir un point de vue, disons, plus informé, plus sociologique, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la spécificité de la hard science fiction. Je pense qu'il faut la comprendre comme étant avant tout un pacte de lecture entre un écrivain et des lecteurs. Et en fait, qu'est-ce qui caractérise ce pacte de lecture ? C'est le fait qu'on a un écrivain qui dit jouer un jeu et qui va proposer des hypothèses impossibles, a priori, ou très, très exotiques, exotiques au sens scientifique du terme, donc très, très étrange, très bizarre. Et il va montrer que cet étrange et ce bizarre est en fait tout à fait possible et tout à fait raisonnable. C'est une manière de pousser un peu la science, là où la science, elle, ne peut plus s'exprimer parce que ben, il faut rester sérieux et rigoureux. La science-fiction va dire, bon, on va prendre cette hypothèse qui est un peu folle et puis on va la présenter comme si elle était possible, normale, acceptable, tout à fait déjà validée, déjà atteinte. Ces écrivains de hard science, c'est souvent des gens qui sont plutôt des astrophysiciens. Il y a aussi un peu de biologie, mais c'est souvent de la physique et de l'astrophysique qui vont montrer que des choses, voilà, comme des mégastructures, comme la sphère de Dyson dont on parlait tout à l'heure, qui est en fait une hypothèse quand même assez loufoque en termes physiques, ben en fait, c'est tout à fait possible. Et donc, à partir de là, les lecteurs, eux, ils vont lire ces récits et ils vont prendre un plaisir particulier à trouver les erreurs qui sont restées dans le récit. C'est-à-dire le fait que, bah, finalement, l'écrivain nous a donné tous les moyens de vérifier les calculs. Donc, on va refaire les calculs et on va voir que, bah, il a oublié tout un tas de choses ou alors qu'il a des mauvais résultats et que, en fait, bah, c'est pas possible, quoi. Donc, ce pacte de lecture dont je parle, ça veut dire aussi que c'est un pacte qui ressemble à celui que les scientifiques peuvent avoir pour une revue quand ils vont publier un article dans une revue académique. Parce qu'on va avoir un comité de lecture avec des scientifiques, des pairs qui vont évaluer notre article et voir s'il y a des erreurs qui ont été faites, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes. C'est ce pacte de lecture d'évaluation par les pairs. Pour moi, c'est une forme d'imitation de la science, d'imitation de l'activité scientifique. Après, on peut s'interroger sur le but hein, de cet exercice. Est-ce que c'est une parodie de la science ou est-ce qu'on trouve... on a envie de faire vraiment aussi sérieux que les scientifiques. Est-ce qu'on est aussi sérieux qu'eux ? C'est un peu ce genre de rapport qui, moi, m'intéresse, en fait, à travers la hard science fiction.
Merci, Julien Vaquez. On continue la discussion. Et tout de suite, on écoute un extrait de la fable spéculative « Histoire de Camille » de Donna Haraway.
Camille 1. Née en 2025, 8 milliards d'êtres humains vivent sur Terre. Meurt en 2100, 10 milliards d'êtres humains vivent sur Terre. En 2020, environ 300 personnes, dont 200 adultes, des quatre principaux genres pratiqués à l'époque, et 100 enfants de moins de 8 ans, ayant reçu des héritages propres à différentes classes, races, religions et régions, construisirent une ville en Virginie-Occidentale, à l'endroit où New River et Gowler River confluent pour former le fleuve Kanawha. Elles nommèrent cette colonie New Gowler, en hommage aux terres et aux eaux ravagées par les extractions de charbon qui décapitèrent les montagnes. Les historiennes et historiens de l'époque suggérèrent d'appeler la période allant de 2000 à 2050 le grand atermoiement. L'heure était à l'angoisse, une angoisse généralisée et infructueuse. Elle était suscitée par les destructions environnementales, ainsi que par les preuves manifestes des extinctions massives et de leur accélération, des changements climatiques et de leur violence, de la désintégration sociale, de l'augmentation des guerres, de l'accroissement incessant de la population humaine en raison du grand nombre de jeunes. Même si le taux de natalité était tombé en dessous du taux de remplacement dans la plupart des régions, et de vastes migrations d'êtres humains et non humains, réfugiés, sans refuge. Durant cette période éprouvante, alors qu'une action concertée pouvait encore changer les choses, de nombreuses communautés émergèrent de par le monde. En français, on nomma ces rassemblements les communautés du compost. Leurs membres se disaient « compostistes ». Ces communautés comprirent que le grand atermoiement pouvait aboutir à des crises mortelles, à moins que ne fermente par l'action collective un temps tumultueux mais génératif de revirements, de révoltes, de révolutions et de résurgences. Au cours des premières années de New Gowler, les adultes de la communauté n'avaient donné naissance à aucun enfant. Tout au long de la vie, l'amitié, comme pratique pour faire des parents, était cultivée et fêtée. Puis en 2025, la communauté se sentit prête à donner naissance à ses premiers bébés et à les lier à des symbiotes animaux. On savait bien qu'apprendre à vivre en symbiose avec un autre animal de façon collective ne serait pas une mince affaire. On savait tout le soin matériel et intime que cela impliquerait. C'était là une pratique pour réparer des lieux ravagés et faire fleurir des futurs multispécifiques. Camille 1 naquit au sein d'un petit groupe de 5 enfants. Il fut l'unique jeune en symbiose avec un insecte. Les autres membres de cette première cohorte se firent les symbiotes d'un poisson, d'un oiseau, d'un crustacé et d'un amphibien.
Nous venons d'écouter un extrait d'Histoire de Camille, Les enfants du compost, de Donna Haraway. Ce texte est le dernier chapitre de Vivre avec le trouble. La lecture a été faite par Cléo.
Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours en compagnie du sociologue Julien Wackez. Julien Wackez, le texte qu'on vient d'entendre est une fabulation spéculative, selon les mots de Donna Haraway. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Ben, un bel objet d'étude. Non, je trouve que c'est très intéressant. Le travail de Donna Haraway est très intéressant, très important. En fait, ce qui m'intéresse, moi, dans ce travail, c'est sa manière de se réapproprier la science-fiction, quoi, une certaine idée de la science-fiction. Et qu'est-ce qu'elle en fait, quoi ? Parce que c'est vrai que l'un de mes objets d'étude, c'est un peu... donc c'est à la fois la production d'imaginaire, de récits de science-fiction, mais c'est aussi les usages qu'on peut en faire, et notamment les usages scientifiques. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, Donna Haraway, c'est une femme scientifique, philosophe. Elle se met à écrire comme ça des récits de... Alors voilà, qu'elle appelle speculative fabulation ou quelque chose comme ça. Enfin, elle a tout un jeu assez intéressant sur les mots, quoi, qui a une sorte d'inventivité assez incroyable en termes de vocabulaire, en termes d'expression, qui est assez intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est plutôt de comprendre un peu son usage dans un cadre un petit peu plus large, dans un contexte. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, on a des gens qui s'intéressent à ce genre de problématiques, qui ont ce genre de parcours-là, qui sont des scientifiques ou des philosophes, qui vont utiliser ce type de récit. Pourquoi ils ressentent le besoin d'écrire ce genre de récit, en fait. Voilà, c'est un peu ça qui me, qui moi m'interroge en fait.
Et alors justement, quelles sont les réponses que vous avez trouvées? Enfin, qu'est-ce que la science-fiction peut en fait pour les sciences sociales dans un contexte d'anthropocène?
Alors pour répondre à la question, j'ai des hypothèses, on va dire. Je pense que les gens comme Donna Haraway... Alors, moi, je me suis intéressé plus spécifiquement sur les gens qui sont en multi-species studies, donc les études multi-espèces, qui est un peu un genre d'anthropologie qui est apparu assez récemment et qui se présente, en fait, explicitement comme étant un genre d'écriture, un genre d'enquête, presque comme un style, quoi, en fait. C'est des anthropologues qui cherchent à remettre en cause le fait que dans le titre même de leur discipline, il y a le mot anthropos, quoi, il y a l'homme, dans un contexte où on a besoin de transformer les relations qu'on entretient avec les autres êtres vivants. Dans ce cadre-là, la science-fiction est très utile pour ces gens-là parce que ça leur donne tout un tas d'outils, de techniques, d'écriture qui leur permettent de se placer. Enfin, en tout cas, d'essayer d'imaginer ce que c'est qu'un point de vue qui ne serait pas humain ou pas le point de vue humain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc peut-être un point de vue post-humain ou un point de vue non-humain ou plus qu'humain. Enfin voilà, il y a tout un tas d'expressions. Et donc voilà, ça leur donne des stratégies d'écriture. Je pense que c'est un peu ça qui est intéressant. Alors, mais du coup, après, ça a tout un tas de conséquences. Et donc il faut s'interroger sur les conséquences de ce choix parce que cette histoire... des relations entre, par exemple, l'anthropologie, mais les sciences en général, et les sciences sociales en particulier, et la littérature, c'est quand même une très longue histoire. En général, quand les sciences sociales vont faire appel à la littérature et dire à quel point, voilà, il y a tout un tas de livres de sociologues qui disent à quel point Gustave Flaubert était sociologue, ou Émile Zola était sociologue, ou même anthropologue, il y a aussi des anthropologues qui font la même chose, donc ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'histoire de nos disciplines, lorsque sociologues, anthropologues font appel à la littérature, c'est plutôt une forme canonique, une forme classique de littérature. Et là, pour la première fois, on fait appel à la science-fiction. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et surtout, ce qui est intéressant, et notamment avec cet exemple-là de Donna Haraway, c'est qu'elle se met à écrire des récits, donc on peut qualifier de science-fiction, et elle le revendique, quoi. Alors que dans la sociologie et l'anthropologie, quand on insiste dans les années 60-70, quand on insistait sur la dimension narrative ou littéraire de nos disciplines et du travail que l'on fournit dans ces disciplines-là, c'était plutôt pour une volonté de déconstruire en fait ce travail, de dire ah ben, oui, regardez la manière dont on écrit, dont on travaille, en fait, c'est on crée des narrations, quoi. Et donc il faut avoir conscience de ça pour essayer de peut-être de d'écrire différemment. Alors que là, ce que fait Donna Haraway et d'autres parmi tout ce giron de chercheurs qui sont dans les études dites multi-espèces, c'est de revendiquer le fait qu'on écrit des histoires. On n'est plus tout à fait dans une volonté de déconstruction, on est dans une volonté de... on doit réinventer des histoires parce qu'on a besoin d'autres histoires. On a besoin de montrer que une autre réalité est possible, une autre manière de faire société est possible. Et donc voilà, on doit inventer des nouveaux récits. Mais ça veut dire aussi qu'on présuppose une certaine force au récit. En changeant de récit, on va changer la société. Et je pense que d'une certaine manière c'est vrai, mais je pense que c'est aussi limité, quoi. Je pense qu'on a besoin aussi d'autres choses que de récits pour changer la société.
Merci. Avant de clôturer la discussion, on va écouter un autre extrait de texte.
Archive numéro 324. Fond de l'association Sciences cosmophoniques et paralinguistiques. Extrait du procès-verbal de la réunion de création d'une nouvelle association distincte et indépendante de l'association de terrolinguistique. Nous ne ferons pas le compte de tous les succès, dont le plus beau aura sans conteste été de reconnaître aux araignées, réparant ainsi une injustice de longue date, la réelle maternité de la méthode et des sciences historiques par excellence. L'invention de l'archive. Car les araignées ont bien été à l'origine de cette magnifique invention. Ce fut une découverte majeure dans et pour l'histoire. Les araignées ont été les premières à avoir mis au point une technologie de conservation des événements, puisque les toiles, avant même d'être des pièges, affaires d'architecture ou de territoire, sont la mémoire matérielle et externalisée de conduite, de technique et de style. Des cartographies soyeuses de mémoire sans cesse en évolution. On ne peut mieux qualifier l'archive et créditer enfin les araignées de l'origine de cette précieuse science. Et grâce à cette reconnaissance, ces toiles ont enfin pu figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous venons d'écouter Cléo lire un extrait du chapitre « L'enquête des acouphènes » ou « Les chanteuses silencieuses » du livre de Vinciane Després, autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation. Vinciane Després imagine la terro-linguistique, une discipline scientifique du troisième millénaire qui étudie les histoires que les animaux écrivent et racontent. Ces textes se présentent comme des archives scientifiques d'un futur dans lequel le langage des animaux serait enfin compréhensible. On tenait à écouter cet extrait qui nous a rappelé l'œuvre de l'auteur de science-fiction Ted Chiang auquel vous vous intéressez et qui, à sa manière, propose de produire une connaissance sur le langage des non-humains en essayant de redonner la parole à des perroquets en voie d'extinction. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces travaux qui redonnent une voix aux non-humains ?
Dans ces travaux, celui de Ted Chiang, vous voulez dire ?
Oui.
Déjà, bon, je suis assez fasciné depuis longtemps par l'œuvre de Ted Chiang. Je trouve que c'est un auteur très intéressant. Bon, ce que je dis là, ce n'est pas très original. Je pense qu'on est plein à penser ça. Mais ce texte-là m'a particulièrement marqué. Alors, c'est aussi une œuvre artistique, une installation qui était dans un musée, je crois, dans un musée à Philadelphie en 2014 ou 2015. C'était une collaboration entre Ted Chiang et deux artistes. C'était une installation avec trois écrans et il y avait un écran qui montrait une forêt, la forêt de Puerto Rico, un autre écran qui montrait l'observatoire Arecibo, qui est situé juste à côté de la forêt à Puerto Rico, et un troisième écran donc, qui montrait le texte que Ted Chiang avait écrit, donc cette petite fable, qui est un texte que je trouve absolument génial, quoi. Enfin, c'est vraiment d'une inventivité aussi extraordinaire. Alors, c'est une démarche un peu différente, je pense, qu'une autrice comme Ursula Le Guin, qui est, il me semble, celle qui a initié le terme de terro-linguistique que réutilise Vinciane Després. Mais dans cette petite fable, Ted Chiang, en fait, il fait quelque chose qui est à la fois très simple et très complexe. Donc, il nous montre que dans cette forêt à Puerto Rico, il y a une espèce de perroquet endémique, le Amazona vitata, qui est en voie de disparition à cause de l'activité humaine qui détruit la forêt pour mettre des champs de canne à sucre et d'autres trucs. Et donc la forêt est en train de disparaître et donc les perroquets sont en train de disparaître. Et donc il utilise cet outil qui est très simple. Donc le narrateur de cette histoire, c'est un de ces perroquets qui s'adresse à l'humanité. Il utilise la proximité entre la forêt et l'observatoire Arecibo, donc qui était un observatoire qui a été utilisé pour écouter le ciel, écouter l'espace et essayer de détecter l'existence de possibles civilisations extraterrestres. Mais ça a été aussi utilisé pour envoyer des messages. Et donc voilà, le perroquet va utiliser la proximité de son habitat avec cet outil technologique très avancé pour envoyer un message à l'humanité et dire vous recherchez des interlocuteurs, des formes de vie intelligentes avec lesquelles vous pouvez parler. Il se trouve que les perroquets sont une forme de vie intelligente avec laquelle vous pouvez parler, parce que nous apprenons, nous sommes capables de vocaliser, de parler, de produire des sons, et de communiquer avec ces sons, et même de comprendre ces sons. Dans ce texte, il y a tout un jeu de miroirs très intéressant entre espèces, mais aussi entre disciplines scientifiques. Donc d'un côté, on a l'éthologie qui nous permet de comprendre la manière dont la cognition chez les perroquets fonctionne et qui montre qu'en fait, c'est des êtres qui sont extrêmement intelligents. Effectivement, ils sont capables de comprendre le langage, de comprendre des concepts. Et d'un autre côté, un certain programme de recherche en astrophysique, c'est un programme qui existe, c'est un programme de vie intelligente extraterrestre. Et donc, lui, il profite de ça pour interroger l'idée d'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Est-ce que vraiment on sait ce que c'est que l'intelligence ? Et est-ce qu'au fond, en cherchant des intelligences ailleurs, on n'en vient pas à ignorer les intelligences avec lesquelles on partage cette planète ? Donc je trouvais ça absolument fascinant. Il y a aussi un autre jeu de miroir dans ce texte, C'est un jeu de miroir entre des formes de connaissance, entre le concept et la métaphore. En fait, il montre qu'il y a un trouble dans le fait qu'on ne sait pas quelle est la différence entre le concept et les métaphores. D'une certaine manière, il y a une sorte de conceptualité de la métaphore et de métaphoricité du concept que je trouve très intéressante. Enfin, c'est donc un texte très court, très simple, qu'on peut lire très facilement, à partir duquel on peut tirer tout un tas de choses très très intéressantes, quoi.
Et je voulais vous demander, après avoir lu tous ces textes de science-fiction, est-ce que vous envisagez ou vous écrivez peut-être déjà vous-même de la science-fiction ?
Oui, j'essaye d'en écrire, oui. C'est un projet un peu particulier qui me prend du temps, sur lequel je travaille uniquement à mes heures perdues. Donc quand j'ai le temps, je ne travaille pas sur mes objets de recherche habituels, quoi. Donc du coup... Oui, j'écris, j'ai un rapport à l'écriture, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aime beaucoup pratiquer, et j'aime beaucoup lire aussi. Et donc voilà, ça me travaille, et j'essaie de réfléchir un peu à la forme de l'écriture que j'ai, mais à la fois aussi dans mes articles et mes textes académiques. Et j'essaie de produire des textes de fiction. J'en ai pas publié beaucoup, j'en ai publié peut-être une ou deux nouvelles il y a très très longtemps.
Merci beaucoup Julien Vaquez, il est temps de clôturer cette émission. Merci à Julia Martin pour la réalisation, merci à Chloé Salion à la lecture. Cette émission a été préparée par Julia Martin, Amélie Curoda et Julie Panet, et elle a été animée par Amélie Curoda et Julie Panet. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de radiocampusparis.org et sur Spotify. C'était le troisième et dernier épisode de notre série Catastrophe. À bientôt.